rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Salut à tous, c'est un plaisir chaque semaine de vous retrouver pour une nouvelle balade. Le samedi entre 19h et 20h, c'est notre rendez-vous, notre petite parenthèse pour voyager dans le temps avec un invité. Cette semaine, nous sommes avec une chanteuse. Vous l'avez découverte dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'était en 98, il y a 22 ans. Et oui, elle n'a pas changé depuis. Julie Zenati va embarquer avec nous dans un instant. Extrait de l'émission.
Depuis que j'ai 16 ans, je travaille. Et on me dit quoi faire, et on me dit comment faire, et on me dit qui être et qui ne pas être, quand je dois l'ouvrir, quand je dois la fermer. Et à partir de cette nuit-là, je me suis dit, en fait, on ne va plus me dire quoi que ce soit. Vous savez, moi, il y a des gens qui ne connaissaient pas mon histoire et qui, après l'interview où j'ai dit, bah oui, c'est moi, cette petite fille.
Vous avez été agressée sexuellement,
étant petite. Et du coup, on m'a envoyé des messages, des gens avec qui j'ai enregistré la chanson, hein, qui m'ont dit je n'avais pas compris que c'était toi. Tout le monde est fâché parce que confinement, pas confinement. Bon, en même temps, c'est un fait. Il y a un truc qui tue des gens et ce truc-là, c'est un virus. Tout le monde fait comme il peut. Donc ça ne sert à rien d'aller se battre. C'est essentiel de transmettre à ses enfants son héritage, ses origines, pas forcément religieux, mais en tout cas culturel,
philosophique,
et même de savoir d'où on vient. J'aime faire de la musique pour moi, mais j'aime faire ça avec les autres, pour les autres. C'est pas forcément la chanteuse dont j'ai envie qu'on parle, c'est plutôt de la musicienne en fait.
Dans le rétro de Julie Zenati, c'est jusqu'à 20h sur France Bleu. Vous écoutez France Bleu, passez un bon week-end, confiné pour certains d'entre vous, c'est long, c'est dur, mais on va essayer de se changer un peu les idées avec notre invité aujourd'hui. Son album s'appelle Refaire, danser les fleurs, 14 titres au total qui vont colorer votre quotidien. Bonjour Julie Zenati.
Bonjour.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre vie, dans cette vie suspendue, dans cette ambiance un peu spéciale, vous êtes aussi joyeuse, pétillante et optimiste que ce que vous transmettez dans cet album?
J'essaie.
Ou c'est que de la gueule?
C'est que de la gueule. Non, j'essaie. En fait, l'album est rythmé et de choses joyeuses et de choses un peu plus lourdes. Voilà, c'est un peu l'état dans lequel je suis. Là, je suis plutôt sur une phase un peu down, là, hein, tout de suite. Hein.
Refaire danser les fleurs, c'est ça. C'est une mélodie. À quoi vous pensez en écoutant cet enchaînement?
À quoi je pense? Ouais. Je me dis qu'on a bien travaillé. Je suis assez fière de cet album, qui est un album particulier, parce que c'est la première fois que je suis productrice d'un de mes disques.
Mais il y en a de plus en plus qui deviennent producteurs de leurs disques. Pourquoi?
Parce que je pense qu'il faut être au plus près des gens et que parfois, il y a probablement trop d'intermédiaires, trop de réflexions, une envie de communiquer avant de créer. Et je pense que l'important, ce sont les chansons. Après, oui, il y a les chiffres, les classements et tout ça.
C'est important quand même.
C'est important pour pouvoir continuer à faire des projets. Parce que qui dit bon chiffre dit sous, qui dit sous dit création aussi, en tout cas dans la finalisation d'un projet. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de faire un travail de proximité finalement. Il faut aider nos artisans. Voilà, je fais partie de ces artisans maintenant.
Dans cet album, on vous prête les influences de France Gall et de Michel Berger. C'est vrai d'ailleurs qu'en écoutant Tout est plus pop, refaire danser les fleurs aussi, il y a vraiment un truc. La comparaison est flatteuse. Hein.
Très flatteuse, parce que c'est vrai que c'est une artiste qui a bercé mon enfance et c'est une artiste qui ne m'a jamais quittée. J'ai toujours aimé reprendre ses chansons, j'ai toujours aimé l'écouter, la réécouter.
Qu'est-ce qui vous fascinait chez elle?
C'était une petite femme, je ne sais pas, très grande non plus. Et puis ce côté presque sans concession, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais l'impression de voir d'elle. Elle était, j'ai l'impression, assez tenace, assez jusqu'au boutiste. Quand on la voyait sur scène, elle tenait d'une main de fer ces musiciens qui faisaient quatre fois elle. C'est une artiste vraiment que je trouve extrêmement intéressante, d'autant plus qu'elle a commencé dans des années où les chanteuses étaient avant tout des petites poupées, quoi. Et la petite poupée s'est transformée en poupée qui parle, qui pense et qui fait. Et ça, c'est fort.
Vous êtes aussi une petite poupée, vous, Julie Zenati ?
En tout cas, on m'a prêté beaucoup cette image-là.
Ça vous a gonflé ?
Non, parce qu'une petite poupée, c'est gentil, hein, donc on s'en méfie pas.
Ouais, mais voilà, ah oui !
Faut voir le positif.
Oui, exactement.
Faut voir le positif.
Est-ce que vous êtes nostalgique ? À écouter vos différents albums, on a la réponse ?
Je pense que c'est oui. Je suis plutôt nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu.
Les 60s, les 70s.
Ouais, les 70s. Et puis, nostalgique de, finalement, de choses que j'ai connues au travers de gens qui me sont importants, en fait. C'est ça, je me rends compte en vous le disant.
Avec cet album, vous êtes aussi plus légère, même plus drôle aussi parfois.
Mais
il y a un peu d'humour.
Mais oui, mais c'est ça. Ça, c'était mon petit péché caché.
Mais pas si caché que ça, parce que c'est vrai que je pense que les fans qui vous connaissent, ou nous, quand on vous croise, avant que le micro s'allume, vous êtes une petite marrante, quoi.
J'ironise beaucoup et j'ai beaucoup de second degré. Je pense qu'évidemment, c'est lié au fait que j'ai beaucoup été taillée, alors dans un mot beaucoup plus joli, j'ai été beaucoup embêtée du fait que j'ai toujours été la plus petite, que j'ai toujours eu une grosse voix. Et du coup, évidemment, en grandissant, c'est quelque chose que j'ai continué de cultiver personnellement. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à mettre ça dans mes chansons parce que j'avais l'impression que la musique, c'était un truc sérieux et qu'il fallait pas trop rigoler, quoi.
L'album, il pétille, il est entraînant, il est positif. Allez, il y a un titre, par contre, qui est plus mélancolique, avec une orchestration plus puissante, qui fout les poils, comme on dit, c'est celui-ci.
La rumeur de la rue le dit dans la lune. Pour d'autres, il est nul. C'est un pierrot dans sa bulle.
On fait aller où une année de plus. Les mêmes visages, ceux de la rébus.
C'est qui ce petit Léo ?
Ce petit Léo, c'est tous ces gens qu'on peut croiser dans la rue, qui semblent avoir le regard un peu vide, un peu perdu, qui regardent beaucoup en l'air. Tous ces gens qui se sentent un petit peu en marge, finalement, de la société dans laquelle on vit, et qui sont de plus en plus poussés sur le bas-côté. Quand on prend du temps de discuter avec ce genre de personnes, on se rend compte qu'ils ont une autre façon de penser, de rêver, de ressentir, et qui ferait énormément de bien à la société très policée et très angoissante dans laquelle on vit.
Pourquoi ce titre et pourquoi aujourd'hui particulièrement ?
Je pense que le fait d'avoir des enfants et de faire le métier que je fais bouscule énormément de choses. Moi, je fais un métier, comme on dit, très égocentré, très égotique, où je parle tout le temps de moi, ma vie, mon œuvre, mes angoisses. Et il faut toujours avoir un avis sur tout, il faut penser à tout. Et puis au moment où on a des enfants, bah forcément, le naturel et l'instinct fait qu'on ne regarde plus juste au travers de ses yeux, mais plutôt au travers des yeux qu'on est en train d'essayer d'ouvrir à la curiosité, d'ouvrir à l'autre, voilà. Et à partir de ce moment-là, on fait des rencontres incroyables. Et moi, ça a été mon cas. J'ai fait des rencontres d'autistes. J'ai fait et je me suis rendu compte de la façon dont on avait parfois un regard ou condescendant, ou un regard qui pouvait manquer de curiosité. On demande à tout le monde de rentrer dans le moule.
Dans des cases.
Voilà, dans des cases, ou dans le moule en tout cas, qui est préfait. Et ceux qui en sortent tout de suite sont des marginaux. Bah non, c'est juste, ils pensent autrement, ils voient les choses autrement. Et c'est assez beau quand on prend le temps de regarder de leur côté, en fait.
Pour se préserver de ce monde qu'on voudrait ne pas connaître aujourd'hui, pour s'évader, pour se réfugier dans une bulle de chewing-gum un peu, il y a cet album, enjoué, coloré et libérateur, signé Julie Zenati. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, Comic Strip.
Pas mal.
Ouais, ça vous va la comparaison ?
Ça me va très bien.
Cet album s'appelle Refaire danser les fleurs dans le rétro. À tout de suite sur France Bleu avec Julie Zenati. 19h-20h, c'est dans le rétro aujourd'hui. C'est Julie Zenati qui nous accompagne pour notre voyage dans le temps sur France Bleu.
Déborah Grunewald remonte le temps avec ses invités sur France Bleu. C'est dans le rétro.
Et c'est parti pour notre première étape de ce voyage dans le temps. Go ! Ça, c'est vous, là, qu'on entend. Vous naissez à Paris. Votre mère, Elisabeth, est chanteuse, je crois, c'est ça ?
Non, pas du tout.
Ah, bah ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré demander.
Pas mal. Non, elle a toujours aimé chanter. Ma mère chante très bien.
Elle faisait quoi, si c'est pas indiscret?
Bah, elle travaillait avec mon père, son agent immobilier.
Et il faisait du piano aussi en amateur, c'est ça?
Tout à fait.
Maintenant, on sait tout.
On sait tout. Et puis, du coup, eux, ils se faisaient des soirées, au lieu de faire des soirées karaoké sur un écran, mon père jouait du piano et debout. Voilà. Puis ma mère chantait.
Vous avez une grande sœur de 5 ans, votre aînée. Vous avez grandi quoi? Protégée?
Je sais pas si j'ai été chouchoutée. J'étais pas dérangeante, je suivais le mouvement.
Vous disiez, la petite dernière essaie toujours d'accomplir ce qu'elle n'a pas réalisé en parlant de l'aînée.
En tout cas, je me suis construite plus ou moins en opposition avec ma sœur. Quand on a un aîné du même sexe que vous, c'est en même temps c'est super parce qu'elle a déblayé plein de trucs.
Ouais.
Donc ça c'était pas mal, j'ai pu sortir beaucoup plus jeune qu'elle. Beaucoup de sujets avaient déjà été abordés, la drogue, l'alcool, enfin bon, tout ça.
Ouais. Donc, mais c'est vous qui avez testé.
Non, ma sœur l'a fait avant moi, donc du coup moi il a fallu que je reste sobre. Voilà, donc j'ai plutôt une adolescence très calme. Par contre, ma sœur, c'était plutôt la tête de la famille. Et moi, j'étais le clown. De clown, je suis devenue chanteuse, quoi.
Vous expliquez, il y a toutes mes origines dans mon nom. Une terminaison italienne, le nom de la tribu berbère des Zénètes. Un prénom français aussi. Comment vous les ressentez, ces origines au fond de vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez transmettre aussi à vos enfants?
Pour moi, c'est essentiel de transmettre à ses enfants son héritage, ses origines, que ça soit pas forcément religieux, mais en tout cas culturel,
philosophique,
et même de savoir d'où on vient. Pour moi, ça me semble très important. Moi, comment mes origines se traduisent au quotidien, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser, de réagir.
Vous avez un petit sourire en coin quand vous dites ça. Pourquoi?
Oui, moi, je suis un feu follet, quoi. J'apprends, hein, et encore aujourd'hui, à maîtriser toutes mes émotions qui peuvent être très oppressantes pour les autres, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Hein.
Mais c'est cool, au moins c'est sincère.
Ah bah c'est vivant en tout cas.
Bah ouais.
Ça c'est très vivant.
Voilà. Trop vivant.
Faut demander à mon mari ça après.
Allez, c'est reparti, on y va. On est à l'angle du boulevard de Clichy et de la rue de Douai à Paris. On va ouvrir cette porte. On est dans la cour du lycée Jules Ferry. L'école, pour vous, Julie Zinati, c'était un moment heureux ou douloureux?
Non, c'est plutôt un moment heureux. J'avais une super bonne de potes et qui sont toujours mes potes aujourd'hui.
Ouais, il paraît que vous avez gardé vos amis d'enfance.
Mon mari, je l'ai rencontré au lycée. Bon, j'avais 13 ans. Donc ça, c'est incroyable. Avec le temps, je me rends compte de la chance que j'ai. Et je n'ai que des bons souvenirs dans ce lycée, etc. Après, moi, j'étais une très grosse angoissée du travail bien fait. Je n'étais pas forcément très douée à l'école, donc il fallait vraiment que je charbonne et que j'y aille. C'était très honteux de revenir avec une mauvaise note, etc. Alors que je n'avais pas du tout des parents qui étaient très à cheval là-dessus. Mais c'est marrant, j'avais l'impression que c'était essentiel d'être toujours...
parfaite, quoi, en fait, irréprochable.
Il y a un petit côté comme ça, avec cette pression que je me suis mise complètement toute seule, c'était pas du tout le regard de mes parents.
Et encore maintenant dans le boulot?
Beaucoup moins. Depuis d'ailleurs que je suis devenue productrice et depuis aussi que j'ai eu mes enfants, c'est-à-dire que je me suis rendu compte de... Moi j'avais vraiment la boule du dimanche soir. C'est-à-dire que le dimanche soir j'avais de l'urticaire, j'avais mal au ventre, j'avais toutes les maladies de la terre. Combien de lundi matin j'ai loupé? J'avais des vrais symptômes, mais en fait j'avais rien, c'était que de l'angoisse, quoi. Enfin, j'ai appris aussi grâce à mes enfants à me détendre moi de façon générale, ce qui fait que du coup parce que je sais comme c'est, ça peut être très angoissant l'école.
Mais comment vous avez surmonté ça?
J'ai toujours eu des bonnes amies. Et puis j'ai aussi des parents attentifs. Jusqu'au jour où ils ont compris que tout ça se passait avant tout dans ma tête, ils m'ont jamais dit bon non mais ça va passer. Ils m'ont toujours écoutée. Et puis au moment où ils ont senti que j'étais un peu plus prête à dépasser ça, ils m'ont dit, on y va. Ils m'ont pas mis la pression, je pense que c'est aussi ça.
Julie Zenati, vous restez avec nous?
Bien sûr.
On revient dans quelques secondes sur France Bleu pour continuer notre voyage dans le temps. Elle va refaire danser les fleurs avec La Cigale à la veille de l'été, le 20 juin. Julie Zenati est notre invitée dans le rétro sur France Bleu.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Vous moquez pas de moi, j'ai voulu faire un petit truc cool là en disant La Cigale, c'est la salle de concert où vous serez à Paris l'été, le 20
c'était
juin.
C'était super.
Enfin, non, c'était nul.
Non, c'était super.
Direction maintenant le Palais des Congrès à Paris le 18 septembre 1998, vous avez 15 ans.
Je t'aimerai si tu me jures, je t'aimerai si tu me jures qu'on la pendra. Esmeralda, qu'on la pendra, la zine.
Vous êtes sur scène, vous interprétez Fleur de Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. On dit souvent que la voix, c'est le reflet de l'âme. Ce jour-là, qu'est-ce que votre âme a voulu vous dire ?
Rentre chez toi.
Mais non.
Ah ouais, bah si, pareil, c'est comme l'école là.
Angoisse ?
Grosse angoisse, et puis et à ce moment-là, alors en plus tout s'aligne mal, mes chaussures sont pas belles, je suis un boudin dans une robe rose, je suis mal coiffée, rien ne va, et je me dis, je veux pas y aller, je ne pense qu'à rentrer chez moi en fait. Et en fait, à ce moment-là, c'est mon moment, faut que je rentre, et le régisseur Barnet me pousse un peu. Et bon, évidemment, tout de suite, je deviens très agressive, parce que je me pousse pas, parce que je veux pas y aller, et là... Un bras passe comme ça dans les coulisses et me tire très, 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 très fort et je rentre vraiment sur scène. C'est ridicule. Bah, en même temps, moi, j'ai 16 ans. Hein,
Vous avez toujours voulu que votre voix soit la première chose qui transparaisse. Vous vouliez être écoutée, être entendue, plus qu'être regardée.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai changé beaucoup de tête aussi, de manière très inconsciente, dès mes premiers pas. La seule chanson solo que j'ai dans Notre-Dame de Paris, qui est La Monture, j'ai demandé à ce qu'on ne me voit pas.
À l'heure des réseaux sociaux, d'Instagram, le paraître fait vendre, le physique doit être flatté, liké. Ça vous gonfle ça, du coup, aujourd'hui ?
Oui, ça me gonfle.
Ah, pourtant, c'est important pour votre métier quand même, non ?
C'est hyper important. Au-delà, en plus, de l'image qu'il faut qu'on donne, il faut avoir un avis sur tout, à chaque instant. Et il faut être au taquet de tout. Et ça, ça rend complètement dingue.
Mais est-ce que c'est pas ça qui vous rapproche aussi des gens ? C'est-à-dire que par le biais de ces témoignages-là qui concernent tout le monde, finalement, les gens peuvent se reconnaître ou s'opposer, mais se reconnaître particulièrement vous.
Je suis pas sûre.
Non,
je suis pas sûre. Peut-être sur certaines choses qui nous tiennent vraiment à cœur. On peut pas avoir 1000 combats. Et on ne peut pas, encore une fois, avoir un avis sur tout, en tout cas le donner, sans avoir une réflexion sur ce qu'on dit. Aujourd'hui, on nous demande de réagir à l'émotion. Moi, je reste persuadée qu'il y a une part quand même de fantasmes qu'on a tués. Moi, il y a plein d'artistes, j'aimerais pas les rencontrer, parce que moi, j'ai envie d'imaginer comment ils vivent, j'ai envie d'imaginer à quoi ressemble leur maison, j'ai envie d'imaginer tout ça, j'ai envie de les imaginer en train de créer derrière un piano ou avec une guitare. J'ai pas forcément envie de les voir, quoi. J'ai pas envie qu'ils me parlent, j'ai pas envie d'être leur pote. Et après, je comprends, c'est comme ça, ça fait partie de notre travail. Moi, pour le coup, je le fais sans contrainte, c'est-à-dire je le fais quand je le sens, ouais. Je poste pas dès que je mange, je poste pas dès que je respire, parce que c'est pas forcément toujours très intéressant. Le seul truc positif, je pense, c'est que pendant le premier confinement, le fait d'avoir un rapport plus de quotidien et de proximité avec les gens a fait du bien à tout le monde. Aussi bien à nous, artistes, que les gens qui étaient chez eux.
On va rappuyer sur le bouton, c'est parti. Nous sommes à Paris, chez Columbia, fin des années 90. Vous signez là votre deuxième contrat d'artiste et vous sortez en 2000 votre premier album. Deuxième contrat parce que le premier avec EMI a été rompu à la demande de vos parents.
Trop de pression. Ah, trop de pression. J'ai 13 ans, j'enregistre un premier single, je pars à Londres, c'est super. Je fais ma première séance photo avec un super photographe qui avait fait Vanessa Paradis, tout ça. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne sais pas ce que j'ai envie de chanter, parce que moi, j'aime Edith Piaf et Whitney Houston. Donc, concrètement, on était quand même très, très loin de mes 13 ans. On me demande de me regarder, de m'aimer quelque part, aussi de m'observer. Et puis, alors, 13 ans, c'est vraiment le moment où vous êtes difforme. Vous avez une grosse tête, un petit corps, vous vous trouvez moche. Puis, surtout, vous ne vous regardez pas, en fait.
Ouais, mais en même temps, vous avez une chance incroyable, c'est de signer un contrat d'artiste.
Oui.
Ça ne suffisait pas.
Ben, ce n'était pas rigolo, hein. Non, ça, c'était trop de pression.
Votre premier album s'appelle Fragile. Ouais. Zazie, Calogero, Passy y participent. Premier extrait, Si je m'en sors, carton. Suivront ensuite d'autres albums, d'autres singles.
Mais si je m'en sors, sans bleu encore, je voudrais que tu me consoles. Et à quoi ça sert d'être quelqu'un d'autre?
À travers ces albums, vous vous êtes raconté, c'est ce que font beaucoup d'artistes, on parle de thérapie par l'écriture parfois. Est-ce que vous découvrez des choses sur vous à la fin de chaque album ?
Non, je pense que c'est au moment où j'ai découvert que je commence à écrire.
Donc au début du processus, en fait.
Oui, au début du processus.
Ouais. Et là, sur cet album, Refaire danser les fleurs, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous ? Rien. Il faut que je trouve une réponse, mais en fait, rien.
Il y a plein de trucs, mais j'essaie de trouver la genre la plus intelligente. J'ai découvert que j'aimais profondément la musique. J'aime parler de musique, j'aime écouter de la musique, j'aime faire de la musique, j'aime écrire, j'aime composer. Je crois que c'est... Et j'aime faire de la musique pour moi, mais j'aime faire ça avec les autres, pour les autres. C'est pas forcément la chanteuse dont j'ai envie qu'on parle, c'est plutôt de la musicienne en fait.
De retour avec un 9e album, Refaire danser les fleurs, en voici un extrait, rien de spécial, en duo avec Rose, Julie Zenati est notre invitée sur France Bleu.
Rien de spécial, rien à l'horizon, aucune escale, aucun avion. Rien de spécial, aucun frisson, rien qui ne vaille que je monte au front, rien de crucial.
C'est un duo de Rose et Julie Zenati que vous retrouvez sur l'album Refaire danser les fleurs. Julie Zenati est avec nous jusqu'à 20h.
France Bleu, dans le rétro.
Ce titre, rien de spécial, c'est un mantra d'acceptation de la vie comme elle est. Accepter la vie comme elle est, c'est ce qu'on aimerait tous finalement. Est-ce que vous y arrivez, vous ?
Eh ben, j'écoute rien de spécial. Juste l'instant. Et je pense que tout ce qu'on vit là, ça va peut-être nous apprendre à vivre l'instant. Et je pense que c'est parfois ce qui nous manque. Et c'est aussi pour ça que très souvent, on n'est pas satisfait ou on est boulimique de tout. Et je pense que d'apprendre à apprécier vraiment l'instant, je ne parle même pas du moment, c'est potentiellement quelque chose qui peut vraiment faire du bien à notre psyché.
Vous dites que accepter la vie donc comme elle est, c'est important, c'est essentiel aujourd'hui.
Ouais.
Est-ce que ce n'est pas aussi baisser les bras finalement et refuser de se battre parfois ?
Ah non, pas du tout. Vivre au jour le jour, ça ne veut pas dire baisser les bras, ça veut dire prendre ce qu'il y a à prendre et pas forcément s'encombrer de choses qui peuvent être ou trop lourdes à porter ou trop lourdes à combattre. Pour en revenir un petit peu à ce qu'on se disait avant, les réseaux sociaux nous montrent des vies qui sont complètement fausses, en fait, des faux instants. Et je pense que du coup, il est important de prendre la vie comme elle est, surtout telle qu'elle est. C'est-à-dire que j'entends aujourd'hui, tout le monde est fâché parce que confinement, pas confinement. Bon, en même temps, c'est un fait. Il y a un truc qui tue des gens et ce truc-là, c'est un virus. Tout le monde fait comme il peut. Donc ça ne sert à rien d'aller se battre. On ne se bat pas, on attend et on essaye de penser dans une globalité. Et c'est aussi ça, prendre la vie comme elle vient. C'est-à-dire, on ne pense pas que pour soi, on pense autour de nous, à côté de nous et avec les autres, en fait.
Sauf qu'on est peut-être dans une époque un peu trop égocentrique et justement, on a tendance à pas forcément penser aux autres, quoi, finalement.
Oui,
c'est un peu
ça.
Chacun pour sa gueule, quoi.
Bah, c'est complètement chacun pour sa gueule et je pense que c'est vraiment le moment, avec tout ce qui se passe, d'essayer d'être plutôt tous ensemble.
Allez, télétransportation, on y retourne. Nous sommes début 2011, vous êtes enceinte de votre premier enfant, on va ouvrir cette porte. On est chez vous, vous parlez de voyage et du prénom de votre enfant. Vous devez accoucher dans quelques semaines, d'un seul coup, terrible douleur, vous avez mal à la tête, vous prenez deux comprimés et éteignez la lumière. Qu'est-ce qui vous arrive ce jour-là ?
Cette nuit-là, c'était long, hein. Ouais. En fait, ça démarre un peu plus tôt. Je me souviens, je suis place du marché Saint-Honoré. Et je suis en train de manger une crêpe, probablement, encore un truc sucré, avec mon mari et un de ses potes. Et vraiment, à un moment, je perds un peu l'équilibre, je me sens pas bien. Je dis, il faut qu'on rentre, ça va pas. Puis à un moment, je vais m'allonger dans le noir parce que ça s'arrange pas. Et après, je me retrouve dans un camion du SAMU et on m'emmène à l'hôpital parce qu'on suspecte un AVC.
Vous dites que cette nuit a tout changé. Qu'est-ce qu'elle a changé concrètement ?
Bah, elle a changé beaucoup de choses parce que moi, je suis tombée enceinte de façon improbable. Enfin... on sait comment on fait. Improbable dans le sens où, c'était pas prévu. Ça faisait pas très longtemps que j'étais avec le papa de ma fille. Pour tout vous dire, j'étais même sous pilule. Donc, je me suis dit, ouais, truc de dingue, c'est le destin, quoi. Mais donc, du coup, j'ai continué ma vie complètement normalement. J'ai chanté, j'étais sur scène à 8 mois en Russie pour Notre-Dame de Paris. Et vraiment, à partir de cette nuit-là, j'ai pris conscience que tout ça était très fragile et qu'il y avait des choses qu'il fallait que je bouscule dans ma vie, dans ma tête et dans ma façon de penser. Depuis que j'ai 16 ans, je travaille et on me dit quoi faire et on me dit comment faire et on me dit qui être et qui ne pas être, quand je dois l'ouvrir, quand je dois la fermer. Et c'est tout sauf mon caractère. Et à partir de cette nuit-là, je me suis dit en fait, on ne va plus me dire quoi que ce soit.
Mais pourquoi ? Parce que vous aviez peur de mourir ou c'était le fait de devenir maman et d'en prendre conscience ?
Tout ça s'est mélangé. La seule chose que je disais, c'était pourquoi je ne vois plus mon ventre ? Cette nuit-là, j'avais déjà un bon petit bidou. Hein. Au fur et à mesure, je redeviens vraiment plate.
Mais ça, c'était dans votre tête ?
Non, c'était pas dans ma tête. C'est qu'elle s'est fait toute petite. Pourquoi on me fait pas une écho ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vois plus mon ventre. Pourquoi ? Et on me disait non, mais ça va, vous inquiétez pas. À un moment, on me dit bon, voilà, on va vous endormir. Il se peut qu'on vous opère, mais voilà, si c'est le cas, vous inquiétez pas, le bébé, il dormira. Bon, évidemment que non, en fait. C'est un avortement clinique, en fait, dans ce cas-là. On n'endort pas un bébé quand on endort une maman pour aller voir dans sa tête, en fait. Hein. Et ce qui a changé, oui, je pense que c'est tout d'un coup mon rapport, finalement, à ce que vaut la vie, en fait, et au temps. Le temps peut être très court. Et j'ai eu très peur que ce soit trop court et que finalement, il me reste quoi ? Notre-Dame de Paris et des disques d'or. Super.
C'est pas l'essentiel.
Bah non, c'est pas essentiel.
Allez, on se télétransporte. Janvier 2003, nous sommes au Zénith de Lille.
Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère.
Vous venez de rejoindre la troupe des Enfoirés. Vous avez dû discuter avec pas mal de bénévoles, des gens dans le besoin. Qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là et qu'est-ce qui vous touche particulièrement ?
Merci. Ils disent merci. Alors que... on vient, on se déguise, on chante et on est là une semaine dans l'année. Et eux, ils sont là tout le temps. Ils sont là les nuits d'hiver et face aux gens qui demandent un paquet de pâtes pour pouvoir manger cette semaine. Et voilà, et ils disent merci. Ça, c'est complètement fou.
Coluche disait « c'est pas de ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien ». 20 ans plus tard.
Probablement, grâce au Resto du Cœur, en tout cas à Coluche, aujourd'hui, on sait regarder quelqu'un dans la rue. Pendant trop longtemps, ces gens-là ont été ignorés. D'ailleurs, je le vois même avec ma fille, c'est-à-dire que pour elle, s'il y a quelqu'un dans la rue, elle ne va pas détourner le regard ou changer de trottoir. Moi, je ne sais pas, étant petite, si on ne m'a pas appris ça, en fait, de changer de trottoir, peut-être.
On avait honte, peut-être. On n'osait pas regarder.
Oui, ou peur aussi, en fait, peut-être. Mmh. Et je pense que les médias, que Coluche, que toutes les associations de l'Abbé Pierre, en passant par le Secours Populaire, etc., font qu'il y a, quand même une solidarité qui est là. Après, il y a beaucoup trop de gens dans la rue, il y a beaucoup trop de précarité, les loyers sont trop chers, les salaires pas assez hauts, la vie trop chère, je sais pas, enfin en tout cas, il y a un truc qui rentre pas, il y a des ronds dans des carrés, ça marche pas.
Julie Zenati, on a encore plusieurs escales d'ici la fin de l'émission, on va revenir dans quelques secondes sur France Bleu.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Allez, télétransportation. Nous sommes à Paris, à Bastille plus précisément, c'est dimanche. Il y a une petite fille avec un foulard à pois blanc. Cette petite fille, vous en parlez dans ce titre.
Il faudrait que tu vois cette ombre autour de moi qui ne me quitte pas. J'ai appris à couper les jambes à mon passé, mes cheveux au carré, maquiller le visage d'une enfance sans âge, arracher quelques pages.
Cette petite fille, c'est vous. Le fait d'avoir mis des mots sur ce qu'il vous est arrivé, le fait d'en avoir fait une chanson, c'est courageux. Est-ce que c'est un soulagement d'en avoir parlé? Est-ce que c'est un combat aujourd'hui? Et le fait de réécouter ces mots, quel sentiment vous éprouvez?
C'est pas du tout, en fait, c'est pas la première fois que j'en parle.
Moi, je sais.
Et c'est là où c'est très étrange.
Ah, vous dites que c'est pas la première fois que vous en parlez dans votre musique ou...
Oui, dans ma musique.
D'accord.
Ouais, dans ma musique, c'est pas la première fois.
Et pourtant, il n'y a qu'aujourd'hui qu'on vous en parle, c'est ça?
Voilà.
Qu'avec cet album.
Ouais.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont mal fait leur boulot, n'ont pas écouté réellement les paroles de vos albums précédents ou c'était...
Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt à entendre ce genre de choses-là.
On n'était pas prêt à l'époque?
Non, je ne pense pas. Non. Ben non, je pense pas, sinon il n'y aurait pas tous ces mouvements de femmes qui parlent, en fait. On va plutôt parler de ce qui est positif. Je pense que la libération de la parole sur tous les sujets de zone grise, ce qu'on appelle la zone grise, ou que ça soit du harcèlement, que ça soit de l'agression. Aujourd'hui, on est prêt à entendre et à écouter les femmes ou les hommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes, hein, faut remettre les choses dans leur contexte. On est prêt à entendre ça, à l'écouter et à en parler aussi. Jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à il y a quelques années, ça faisait partie des choses un peu honteuses, peut-être aussi parce que tout d'un coup, en donnant la parole à ces femmes et ces hommes, et en leur donnant la parole, on a dévictimisé. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous êtes victime d'une agression, quand vous allez déposer plainte, etc., vous êtes une victime. Après, il faut pouvoir sortir de ce truc de victime, parce qu'il y a quand même un sentiment de honte, de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi? Et tout d'un coup, on devient nous-mêmes coupables en étant victimes. Et on vivait dans une société qui disait un peu ça, qui a toujours remis la parole des victimes en doute sur ce genre d'affaires-là. C'est toujours très compliqué de devoir prouver qu'on a été agressé ou violé. Il y a tellement d'affaires qui restent dans le silence, qui ne sont pas jugées. Le livre de Julia Foyce, par exemple, en parle très très bien. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance, grâce à plein de femmes qui ont ouvert la porte, de pouvoir dire des choses. C'est pas que j'ai eu plus le courage cette fois-ci qu'avant, c'est juste que cette fois-ci, on l'a entendu. Et que...
Mais c'est un truc de fou.
Et ce qui est fou encore plus, c'est que la personne qui a entendu ça, ça part d'une autre interview que j'ai faite sur une autre radio, ça vient d'un homme. C'est pas une femme qui a entendu cette histoire, c'est un homme qui a entendu. Pour moi, rien que ça, c'est une grande victoire.
Mais peut-être que c'est parce que ce mec-là a fait son travail de journaliste et a écouté toutes les chansons et a été interpellé par ses paroles. Parce que honnêtement, quand on écoute votre album, on ne peut pas rester insensible à ses paroles.
Non, mais on peut ne pas forcément comprendre. C'est-à-dire, on peut ressentir quelque chose de lourd, quelque chose d'étrange. Vous savez, moi, il y a des gens qui ne connaissaient pas mon histoire et qui, après l'interview, où j'ai dit, bah oui, c'est moi, cette petite fille.
Vous avez été agressée sexuellement.
Étant petite. Et du coup, on m'a envoyé des messages, des gens qui, avec qui j'ai enregistré la chanson, hein, d'accord, qui m'ont dit je n'avais pas compris que c'était toi. Mais non, mais c'est pas parce que vous dites je dans une chanson que c'est vous. Ouais, mais quand Dalida dit je voudrais mourir sur scène, elle se tire pas une balle.
Elle a envie de continuer sa carrière et de mourir sur scène. Enfin voilà, on essaie toujours de trouver des points. Voilà.
Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Dalida, du coup, je sais pas ce qui m'a pris. Mais enfin, si je m'en sors, on m'a jamais posé de questions.
Et donc, c'est ce que j'allais vous demander. C'était sur le titre Si je m'en sors, que vous en aviez parlé.
Ce n'est plus ma chanson, c'est la chanson des gens. Ça fait 20 ans qu'elle appartient aux gens. Donc, elle reste l'histoire que les gens veulent qu'elle ait.
Le fait de réécouter ces paroles de cet album, c'est salvateur pour vous ? Ou ça remue encore des choses douloureuses ?
Non, il y a toujours une gêne, un petit moment de gêne. Mais jusqu'au jour où j'arriverai, au moment où on me parle de cette chanson, à vous regarder droit dans les yeux sans détourner le regard, ça viendra.
Bah, vous me regardez droit dans les yeux sans détourner le regard. Ouais.
Donc je pense que j'ai réussi ce petit travail, c'est la fin de la thérapie. Et puis vous savez, cet album, c'est vraiment, je me suis plongée dans le salon de mon enfance, dans la musique de mes parents. Moi, mon enfance a été très joyeuse, très douillette. J'ai des parents incroyables qui ont toujours entendu tout ce que je pouvais dire, tout ce que je pouvais vivre, m'ont toujours cru. Et c'est un endroit qui est plein de couleurs, plein de douceur. Et j'avais envie d'un album comme ça. Mais dans ce salon très douillet, il y a aussi cette petite histoire. Et cette petite histoire-là, c'est le début de la suite de refaire danser les fleurs. C'est essayer toujours de se dire qu'on peut faire repousser des choses et des fleurs et des couleurs et des odeurs, même sur des histoires qui ne sont pas toujours très gaies. Hein.
Julie Zenati, on va poursuivre notre voyage dans le temps et se projeter dans le futur cette fois.
Allez,
à tout de suite sur France Bleu.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Son album s'appelle Refaire danser les fleurs. Julie Zenati est avec nous encore pendant quelques minutes. Et après avoir regardé dans le rétro, on va passer ces quelques minutes dans le futur. Destination l'année 2060.
Wow.
Wow. Vous aurez quel âge ?
Ben, je suis en train de faire
79 ans. Je l'ai fait pour vous.
79 ans.
Vous êtes assise là, seule, face à vous-même, face à la mer, en Corse. Vous pensez au temps qui défile. En 2060, qu'est-ce qu'il vous manque du temps passé ?
J'espère que je suis assise avec mon mari.
Non, là, vous êtes seule, parce que vraiment, c'est une introspection.
Ah,
non, je n'ai pas été jusque-là.
Ah, ok, d'accord. Dans l'histoire, il n'est pas décédé.
Non, non.
Bon, alors, s'il est là, ça va. Il me manquerait mes parents, forcément. Je râlerais parce que j'aurais pas assez de nouvelles de mes enfants, ou ils m'auraient laissé leurs petits qui sont insupportables. Et puis je pesterais contre le réchauffement climatique parce que j'aurais trop chaud et j'aurais encore des taches de soleil. Je serais fâchée.
Je serais fâchée en fait, voilà, c'est tout. Comme d'hab.
Comme d'hab.
À la fin de votre album, vous dites merci et vous écrivez « Aujourd'hui, je fais repousser dans mon petit jardin les fleurs que je choisis sans compromis en essayant de ne plus entendre les oiseaux de mauvais augure considérer et troubler ma naïveté. Comment vous vous êtes débarrassé finalement des mauvaises herbes de votre jardin ?»
En étant moi, du coup, ça gêne ceux qui ne sont pas eux, je crois.
On va terminer avec cette phrase que vous avez écrite. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Alors j'espère qu'avec ce voyage dans le temps, certains vous comprendront davantage.
Alors ce n'est pas ma phrase.
C'est celle de qui ?
Michel Berger. Magnifique cette chanson, Pour me comprendre.
Ah, c'est extrait de la chanson Pour me comprendre.
Bien sûr.
Ah, mais voilà, tout s'explique. Donc j'espère quand même que certains vous comprendront davantage grâce à ce voyage dans le temps. Merci beaucoup Julie Zenati. Refaire danser des fleurs, un album à découvrir chez vous, mais aussi sur scène, on l'espère. On croise les doigts le 20 juin à la Cigale à Paris. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans ce voyage dans le temps. Pour podcaster les émissions, il y a évidemment l'application Radio France. Le replay, c'est sur francebleu.fr. On se retrouve la semaine prochaine entre 19h et 20h sur France Bleu. Prenez soin de vous. Salut.
Merci.